Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, l'émission de contes sur CFM. Et oui, des contes, des histoires, bien sûr, des histoires, toutes sortes d'ailleurs d'histoires. Mais aujourd'hui, on va être dans ce qu'on appelle des contes traditionnels, collectés par des gens auprès de vieilles personnes qui ont entendu ces histoires de leur grand-père et ainsi de suite. Oui, il y a eu ce qu'on appelle la tradition orale. Et on a souvent dans ces histoires, dans ces contes, et ce sera le cas aujourd'hui, des animaux. Et c'est vrai que aujourd'hui que les animaux disparaissent, hein, la biodiversité s'effondre, et pourtant on commence à se soucier davantage des animaux. On découvre avec stupéfaction les conditions concentrationnaires de l'élevage industriel. On s'interroge sur l'intelligence animale aussi. Il n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit, on s'interrogeait aussi sur d'autres questions. Par exemple, les femmes ont-elles une âme? Ça, c'était, je ne sais pas, vers l'an 1000. Les bébés souffrent-ils? Ça, c'était pas si vieux. Dans les années 50, on pensait qu'ils ne souffraient pas. Les sauvages ont-ils une conscience humaine? Sont-ils vraiment humains, les sauvages? Ce qu'on appelait les indigènes. Bon, vous me direz que mieux vaut tard que jamais, mais que l'on ait eu besoin de se poser de pareilles questions, quand même, jette un sérieux doute sur l'intelligence humaine, cette fois-ci. Et pourtant, si on avait écouté nos ancêtres, nos grands-parents, toutes les traditions orales mélangent allègrement l'humain, l'animal, la frontière n'est jamais si nette. Et on va le voir avec les histoires d'aujourd'hui, puisque c'est l'histoire d'un pacte entre humains et crocodiles. L'autre histoire, c'est une histoire de guerre entre les animaux, des histoires qui nous viennent du Sahel, encore une fois, qui nous parlent de ce temps d'avant, avant que l'on commence à tout couper en morceaux. Eh bien, partons-y dans ces histoires tout de suite, des contes du Sahel, toujours extraits de ce livre sur les rives du fleuve Niger. Ce sont des histoires qui ont été recueillies par le docteur Keletigui Mariko, dans les années juste après-guerre. En l'occurrence, on va commencer par une histoire qui est un conte Zarma Aoussa, recueilli à Niamey en 1963. La guerre des animaux. Il y avait dans un village du Zarmaganda, il y a bien longtemps de cela, une très belle jeune fille que tous les jeunes aimaient. Chaque jour, elle recevait des visiteurs venant du village comme de l'étranger, mais ne leur manifestait ni son accord, ni sa réprobation. Elle laissait tous les soupirants espérer. Un beau jour, l'éléphant rencontra le coq chez la jeune fille et lui demanda à brûle-pourpoint : « Que viens-tu faire ici ? » ?»«
Et toi, que viens-tu chercher ici ? » ?»«
Ne sais-tu pas que je cherche cette fille en mariage ?»
Ah oui ? Et ne sais-tu pas que moi, je l'ai fiancée ?
Fiancée ou pas, je ne veux plus te voir ici. Va-t'en ou je t'écrase, réveil matin de malheur. Les deux antagonistes se séparèrent.
Mais le lendemain matin, l'éléphant se rendit de bonne heure chez la jeune fille et lui intima l'ordre de dire au coq de ne plus mettre ses pieds dans la maison. Et avant de regagner la brousse, il fit un énorme tas d'excréments. Tu montreras ce tas au coq. Ainsi, il saura à qui il a affaire. Peu de temps après, arriva le coq, la crête plus rouge que jamais, les plumes pleines de couleurs lui donnaient l'aspect d'un arc-en-ciel. La jeune fille le reçut et lui montra le tas de déjections de l'éléphant et lui fit la commission de son rival. Le coq dit « Comment ? Ça seulement ? Eh bien, tu vas voir ce que j'en fais, moi, de sa montagne de... » Et dressé sur ses ergots, balançant la tête et le cou d'arrière en avant, il lança son cri de guerre. « Cocorico ! Cocorico ! » Et de tous les coins et quartiers du village, les poules affluèrent en caquetant. Le coq leur montra le tas de fumier de l'éléphant et leur dit « Éparpillez-moi ça tout de suite !» Et à coups de bec et de pattes, les poules éparpillèrent le gros tas d'excréments de l'éléphant. « Quand il reviendra, tu lui montreras ce que moi je fais de son tas. Il n'y trouvera pas un brin de paille sur un autre. En ce qui me concerne, voilà ce que je fais. Un tout petit tas d'excréments et j'y plante une de mes plumes. Quand il viendra, tu le lui montreras. » Le lendemain, l'éléphant revint au village faire sa cour à la jeune fille et vit le travail du coq. La jeune fille lui montra le minuscule tas d'excréments du coq avec la plume plantée dessus. L'éléphant l'écrasa une fois, enleva son pied et vit la plume se redresser. Il recommença 10 fois. Chaque fois, la plume se redressait. Quel affront ! C'est une déclaration de guerre. Chacun de son côté mobilisa son monde. L'éléphant appela tous ceux qui marchent sur terre, qui ont 4 pattes ou plus, du scorpion à lui-même en passant par l'hyène, le singe, le crapaud, le lièvre, l'écureuil et même le serpent. De son côté, le coq convoqua tous ceux qui ont des ailes, de l'autruche aux abeilles. Les 2 armées, face à face, les 4 pattes à terre, les 2 pattes, 2 ailes perchées sur les arbres, s'invectivaient. L'éléphant envoya le crapaud en éclaireur pour voir si l'adversaire était nombreux ou pas. À peine fit-il quelques bonds qu'un calao l'avala. Ne voyant pas revenir son espion, l'éléphant dépêcha le singe rouge. D'un arbre à l'autre, le singe arriva près de l'armée des oiseaux et, voyant de succulents fruits sur les arbres, oublia le but de sa mission. Pendant qu'il se gavait de fruits, un aigle royal plongea, le saisit par le cou, l'emporta haut et le laissa choir sur le sol où il se fracassa. Alors, ce fut la mêlée générale. L'armée des oiseaux disposait d'une gourde pleine d'une bouillie de poudre d'os et d'une deuxième pleine de teinture rouge. 2 aigles s'envolèrent en portant chacun une gourde. Arrivés sur la tête de l'éléphant, le premier aigle y fracassa la gourde de bouillie de poudre d'os toute blanche, tandis que le second, répétant l'opération, fracassait la gourde de teinture rouge sur la tête de l'éléphant. Ce que voyant, l'hyène se mit à crier que le chef de guerre avait la tête éclatée et le cerveau en bouillie. Cela suffisait pour accélérer la débandade. Les gros écrasaient les scorpions et se plaignaient sans cesse des grands qui laissaient après eux des braises. Les iguanes de leur queue démesurée fouettaient les petits et moyens mammifères. Et au comble de la déroute, ceux qui volaient lâchèrent les abeilles, les guêpes et tous les insectes piqueurs qui pourchassèrent ceux qui marchent loin du village de la belle fille. Vainqueurs, les oiseaux s'en donnèrent à cœur joie et prirent beaucoup de lièvres, d'écureuils, de rats. Le coq épousa la belle jeune fille. Et depuis, il est toujours en habit de noces et chante sa victoire. Quant à l'éléphant, depuis, il ne veut plus rencontrer le coq. Tinérou, l'enfant qui faisait la pluie. C'était il y a longtemps encore, à l'époque où tous les chasseurs de fauves utilisaient seulement des arcs et des flèches empoisonnées. Un de ces chasseurs de race Tombo avait un fils appelé Tinérou, qui riait tout le temps et pour les choses les plus futiles. Et chaque fois qu'il riait, la pluie se mettait à tomber. Toute la population s'en plaignait et en voulait à Tinérou de faire la pluie tout le temps. Seuls les enfants se réjouissaient des bontés de Tinérou qui leur permettaient de barboter dans l'eau et de jouer en se lançant des boules de sable humide. Un jour de marché, le père de Tinérou prépara des ses flèches qu'il trempa dans du poison et les plaça au soleil. Il dit à son fils, « Tinérou, je vais au marché. Il ne faudra pas rire aujourd'hui. Tu vois mes flèches dans le poison au soleil. Si tu ris, la pluie gâtera le poison et je te battrai comme du cuir à la cordonnerie. « Bien, mon père, je ne rirai pas aujourd'hui, parce que je ne veux pas qu'un animal méchant te blesse ou te tue. » Le père partit en toute confiance. Tinérou resta calme jusqu'à midi, sans rire. Vers 14h, ses camarades de jeu des fillettes et des garçonnets vinrent le voir. Il refusa de jouer ou de causer. Les camarades firent tant et si bien qu'il sourit une fois, puis il éclata de rire malgré lui, parce que l'un des enfants imitait la danse de Tata Alien avec une grande perfection. Et la pluie se mit à tomber en trompe. Le père revint du marché et gronda Tinérou, qui n'avait même pas eu la présence d'esprit de mettre les flèches et le récipient contenant le poison à l'abri. Craignant d'être battu, il s'enfuit et alla se cacher en brousse sur un arbre. Au bout de plusieurs jours, toute la population se plaignait. Il faisait chaud, le bétail manquait d'eau. Les fleuves et les rivières étaient éloignés du village. Il fallut aller chercher Tinérou dans la brousse. On le découvrit perché sur un tamarinier. Il refusa de descendre de son perchoir malgré les menaces de son père. Il fallut recourir aux méthodes douces. Et les petits camarades reprirent sur place leur jeu, dont la danse de Yorgou. petit Nérou descendit enfin de l'arbre et éclata de rire en se jetant dans les bras de sa mère. Aussitôt, la pluie se mit à tomber sans arrêt. Les chemins furent détrempés, transformés en véritables bourbières. Les champs, les pâturages, les villages furent inondés. Alors qu'il marchait en tête, le père de Tinérou glissa dans l'eau boueuse, tomba et se fractura une jambe. Il fallut le transporter à dos d'homme dans des conditions les plus difficiles. Tout le long du parcours, Tinérou sanglotait et les fleuves, les rivières, les lacs, les étangs sortirent de leur lit, déversant leur trop pleine d'eau sur la terre déjà noyée. La mère de Tinérou calma son fils qui cessa de sangloter et lui dit « Mère, mère, je vois partout des crocodiles qui affluent vers le village. Il ne faudra pas les tuer, que personne ne les chasse. Il faudra leur donner à manger, les soigner, ils protégeront nos villages. » « J'ai compris, Tinérou, mon fils. Si tu connais les crocodiles, demande-leur donc de transporter ton père sur son dos, sur leur dos. Tu vois, ton père souffre, sa jambe est cassée et l'eau monte de plus en plus. Si tu n'arrêtes pas cette eau, nous serons tous noyés. Tinérou, mon fils, fais quelque chose pour nous tous. » Tinérou appela le doyen des crocodiles et lui confia son père. Il demanda aux autres crocodiles de se retirer dans les bas-fonds, car l'eau allait se retirer pour regagner les fleuves, les rivières, les lacs et les étangs, et de là, retourner au grand fleuve du ciel, où les crocodiles ne sont pas admis. Les crocodiles eurent peur et précipitamment trouvèrent refuge à qui mieux mieux. Le doyen des crocodiles, lui, enleva sa langue de sa bouche, consolida la jambe fracturée du père de Tinérou avant de le coucher sur son dos et suivit le reflux des eaux jusqu'au village. L'eau se retira de partout. Le père de Tinérou guérit. Sacrifia un poulet blanc au doyen des crocodiles qui, ouvrant largement sa gueule, lui montra qu'il n'avait plus de langue et lui dit « Ma langue est dans ton pied. Tant que tu sacrifieras, tout ira bien. Dans le cas contraire, mais l'eau se retira si rapidement que personne n'entendit le reste des paroles du crocodile. L'eau se retira de partout. Tinérou retomba dans sa joie habituelle et promit à son père de ne plus rire, mais de faire quand même la pluie à la demande de la population et moyennant des sacrifices au génie de l'eau et du vent. Tout rendra dans l'ordre au village. Le père de Tinérou, que l'on considère aujourd'hui comme l'ancêtre des faiseurs de pluie, ne perdit plus le poison pour ses flèches et n'eut jamais plus à gronder son fils. C'est depuis ce temps que les faiseurs de pluie habitent à l'écart des villages. C'est également depuis ce temps que les crocodiles sacrés de Bandiagara au Mali, de Saouga, de Baraboulé, de Léo et Po au Burkina Faso, ne retournent plus au fleuve et habitent près des hommes qu'ils protègent, moyennant des sacrifices. C'est aussi depuis ce temps que les crocodiles n'ont pas de langue, pour ne pas réclamer aux hommes les frais de remise en état de la jambe du père de Tinérou, l'ancêtre de tous les chasseurs du pays Tombo. C'est enfin ce qui explique l'existence des crocodiles sacrés dans les étangs de toutes ces localités, crocodiles entretenus et protégés par toute la population. Timbarma zina ya lila ya vanniya na timba Timbarma zina ya lila ya vanniya na timbarma Timbarma zina ya lila ya vanniya na timba Thank you.
Eh bien voilà, quant à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez dû remarquer que, avec ces histoires de faiseurs de pluie, là peut-être qu'il y avait des faiseurs de pluie qui étaient venus dans la région depuis quelque temps. Hein. En tout cas, ce conte a été recueilli à Baraboulé en 1947 auprès de Kamba Guindo, chasseur d'Ogon de Bandiagara, République du Mali, et recueilli par le docteur Keteligi Mariko. Les musiques, Balaké Sissoko et Vincent Segal, toujours, avec Oudesti, et puis Timbara, je ne sais pas qui c'est, mais peut-être vous le reconnaîtrez, en tout cas c'est de la belle musique. Voilà, je vous dis merci, portez-vous bien et à la semaine prochaine.